Grand Angle sur Radio Orient.
Une délégation palestinienne est arrivée au Liban pour élaborer une feuille de route pour le désarmement des camps palestiniens. Le Liban cherche à étendre son autorité sur l'ensemble de son territoire, y compris dans les camps de réfugiés palestiniens. Ces comités échappent à son contrôle depuis leur création en 1948 à la suite de la création de l'État d'Israël. Ces camps sont sécurisés par des comités internes, dominés par le Fatah, mais incluant aussi le Hamas et d'autres factions palestiniennes. Depuis l'accord du Caire de 1969, abrogé en 1987, l'armée libanaise ne peut y pénétrer sans l'autorisation de ses comités. Et c'est dans ce contexte que le président libanais Joseph Aoun a affirmé sa volonté de placer l'ensemble des armes, y compris celle du Hezbollah, sous l'autorité de l'État. Objectif de cette rencontre, élaborer une feuille de route pour le désarmement progressif des camps palestiniens. Mais le chantier s'annonce complexe. Certaines factions palestiniennes, notamment le Hamas, contestent cette initiative. Malgré ces tensions, les présidents Aoun et Abbas semblent déterminés à avancer sur ce dossier. Et pour mieux comprendre la situation et ses conséquences, nous recevons Adel Bakawan, directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Toutes les questions qui concernent la Palestine sont complexes. Les différents groupes dans les camps qui existent depuis 1948, c'est un processus très très complexe, multidimensionnel, à la fois local, régional, voire même international. Nous avons, pour rappel, 12 camps, c'est pas un ou deux, il y a 12 camps. Et il y a au moins 500 000 Palestiniens au Liban. Vous avez à la fois des groupes nationalistes, des groupes de la gauche radicale, des groupes de l'islamisme radical et désormais des groupes salafistes qui adoptent le terrorisme comme arme de combat. Alors donc, parmi tous ces groupes-là, il y a certains, bien évidemment, qui acceptent cette négociation en cours entre Mahmoud Abbas et les autorités libanaises, mais il y a d'autres qui refusent catégoriquement et définitivement de se soumettre à ce processus.
L'État libanais peut-il parvenir à ce désarmement ?
Le nouveau gouvernement libanais adopte la négociation et le dialogue pour le moment, la question d'une confrontation militaire est, autant que scénario, exclue. Et donc, ce gouvernement doit être pragmatique et opérationnel, à savoir, certes, Mahmoud Abbas représente l'autorité palestinienne légitimement reconnue et internationalement reconnue, mais c'est vrai aussi, à l'échelle pratique, cette négociation doit inclure les autres groupes qui reconnaissent pas l'autorité de Mahmoud Abbas. Autrement dit, le gouvernement libanais doit négocier à plusieurs échelles, c'est-à-dire avec les quatre catégories, ou bien réunies ou bien séparément, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Le démantèlement vise trois objectifs, donc l'arsenal du Hezbollah au sud du Litanie, le désarmement des camps palestiniens et celui du parti chiite sur tout le territoire. Est-ce que ces étapes sont un préalable pour rendre le Liban souverain et fonctionnel ?
Écoutez, c'est une question fondamentale, c'est une question très importante. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans un processus moyen-oriental dans lequel, bien évidemment, le Liban a toute sa place. Vous avez remarqué avec ce qui s'est passé en Syrie, n'est-ce pas, la fin de ce que j'ai appelé dans mon livre de l'ordre milicien, très très affaibli en Irak. En Turquie, le PKK a décidé de se dissoudre et de se désarmer, rendre ses armes après 40 longues années terribles de guerre civile, n'est-ce pas, en Turquie. Autrement dit, on assiste à ce que j'appelle le retour de l'État dans son Moyen-Orient, notamment dans le Moyen-Orient arabe. Le Liban est dans ce processus. Aujourd'hui, le Hezbollah est affaibli. Selon les données qu'on dispose, à peu près 70 à 80% des infrastructures militaires de Hezbollah ont été détruites. Ce Hezbollah, aujourd'hui, n'a jamais été aussi prédisposé à négocier son désarmement. ce ne sera pas pour demain, ce ne sera pas un processus simple, facile, mais c'est tout à fait envisageable dans ce contexte moyen-oriental global qui se généralise. Numéro un. Numéro deux, oui, pour répondre à votre question, si on souhaite mettre en place un État libanais opérationnel, souverain, fonctionnel, qui sorte de sa situation de faillite déclarée par lui-même, hein, il faut absolument que cet État-là monopolise la violence. Si un État perd le monopole de la violence, de la gestion de la violence, c'est que l'État perd le premier principe de son étatisation. Malheureusement, aujourd'hui, le Liban, depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, le Liban, un des facteurs qui a empêché que le Liban devienne un État opérationnel, c'est vraiment la perte du monopole de la violence.
Ce repositionnement intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et d'un Liban fragilisé, vous disiez, sur les plans économiques, institutionnels et sécuritaires. Les donateurs renouvelleront-ils leur soutien si le désarmement des groupes armés se réalise ou exigeront-ils, selon vous, davantage de garanties en matière de souveraineté et de gouvernance ?
Il n'y a pas de secret par rapport à cette question-là. L'Irak n'est plus à l'époque de Saddam Hussein où 10 millions de dollars arrivaient de Bagdad vers Beyrouth. Le Yémen, la Syrie, l'Égypte, la Libye, hein, ces pays-là sont profondément fragilisés. Aujourd'hui, le seul espace étatique qui pourrait aider et accompagner financièrement parlant le Liban, ce sont les pays du Golfe. Hein. Et les pays du Golfe ont fait leur propre révision. Pas un seul chèque, pas un seul dollar gratuitement. Un seul dollar donné, c'est un seul dollar investi. Autrement dit, les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et le grand frère, est entré dans la logique de la rentabilité. Le Liban, aujourd'hui, dans la situation actuelle, non seulement il n'est pas rentable pour les Golfiens d'une manière générale et l'Arabie Saoudite d'une manière particulière, mais aussi ça présente un terrain très très dangereux économiquement et militairement, sécuritairement et surtout géopolitiquement. Pour amener les investissements golfiens, il faut absolument, un, désarmer tous les groupes, deux, sécuriser le pays, trois, mettre en place un programme économique basé sur la transparence et lutter radicalement contre le terrorisme. Il ne faut pas oublier que le Liban fait partie des États le plus corrompus, avec l'Irak bien évidemment, les plus corrompus au monde. Alors donc, toutes ces conditions sont nécessaires pour préparer des conditions objectives dans lesquelles le retour des pays du Golfe sera tout à fait envisageable. Sans cela, sans ces conditions objectives, il est vraiment peu probable que les Saoudiens reviennent au Liban, à Beyrouth, pour participer à la reconstruction du pays, d'un pays qui est en situation de faillite, il faut le rappeler toujours.
Quelles sont les conséquences à long terme si le désarmement ne parvient pas à être mis en œuvre dans les camps palestiniens et auprès des groupes armés au Liban ?
Le scénario le plus probable, c'est la guerre, c'est la confrontation. À un moment donné, l'État libanais passera sous voie dans l'obligation de passer à l'utilisation de la violence pour désarmer tous les groupes, y compris le Hezbollah. Pour le moment, le processus adopte la négociation, le dialogue, les échanges, mais bien évidemment, il y a une certaine limite, hein. Jusqu'à ces limites-là, la négociation est le moyen privilégié. À un moment donné, la négociation arrive à terme et on est dans l'impasse, dans le blocage. Je ne vois pas d'autres scénarios. Hein. Je ne vois pas que le scénario d'une confrontation. Hélas, malheureusement, des fois, les conditions objectives imposent certaines logiques à un État, notamment un État en situation de faillite, un État fragile, fragilisé. Pour sortir de sa fragilisation et fragilité, il faut absolument déployer d'autres logiques, y compris la logique militaire.
Merci beaucoup Adel Bakawane d'avoir été en ligne avec nous pour nous aider à mieux comprendre la situation du désarmement et ses conséquences sur le pays du Cèdre. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et auteur de l'ouvrage « La décomposition du Moyen-Orient » aux éditions Talendier.
Je vous en prie.
C'était Grand Angle sur Radio-Orient.